Bonjour, bonjour, vous écoutez The Journal.
Avec moi, Mathilde au micro.
Moi, Chloé et Anna la technique.
Restez connectés, The Journal, c'est dans un instant.
Aujourd'hui au programme,
la célèbre écrivaine Amélie Nothomb à l'Institut français.
Les élèves du lycée participent à la conférence de Palmoun.
Le concours d'éloquence des premières en HLP.
Et finalement, Jérôme Teilhard, chargé de mission Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur à l'occasion du forum de formation du samedi 11 février.
Voilà un The Journal bien chargé. Mercredi 1er février, Amélie Nothomb est venue à l'Institut français dans le but de parler de son dernier livre, Premier sang, traduit en espagnol.
Écrivaine belge de renom, chaque livre qu'elle sort devient un best-seller.
Elle a notamment publié Stupeur et tremblement, Hygiène de l'assassin et son dernier roman, Premier sang, qu'elle vient de présenter à Barcelone.
En effet, avant son discours, Mathilde a eu la chance de la rencontrer pour l'interviewer.
Nous remercions Max Vasseur, directeur de l'Institut français qui nous a permis de réaliser cet entretien.
Place à l'interview d'Amélie Nothomb.
Quels sont les auteurs qui vous ont donné la passion de l'écriture ?
Il faudrait d'abord parler des auteurs qui m'ont donné la passion de la lecture, parce que je ne conçois pas qu'on écrive si on n'est pas d'abord lectrice. Bon, ces auteurs sont innombrables, et bon, Hugo, Monterland, Zweig, etc. Mais je pense que l'auteur qui non seulement m'a ébloui littérairement, mais qui m'a en même temps suggéré qu'il n'était pas inconcevable que j'écrive, est un auteur qui s'appelle Rainer Maria Rilke.
Comment trouvez-vous encore l'inspiration pour écrire de nouveaux livres ?
Alors, je vais vous livrer le grand secret de l'inspiration. Le grand secret de l'inspiration consiste à ne jamais s'arrêter. Si vous ne vous arrêtez absolument jamais, votre inspiration sera comme le muscle d'un athlète tellement surentraîné qu'elle sera tout le temps en train de travailler. Donc, voilà, il suffit de ne jamais s'arrêter.
Parmi tous les livres que vous avez écrits, lequel avez-vous eu le plus de plaisir à écrire et pourquoi ?
C'est une question très difficile parce qu'ils m'ont tous apporté énormément de plaisir à écrire et des plaisirs très différents. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Tous.
Comment vos expériences internationales dans votre jeunesse ont-elles influencé votre écriture et votre vie ?
Elles l'ont influencé de bien des manières, mais peut-être que la manière la plus fondamentale, c'est de m'apprendre que la seule chose que je ne perdais pas continuellement, c'était la langue que je parlais et les livres que je lisais, d'où un surinvestissement non seulement dans la littérature, mais aussi dans la langue. Je pense que c'est comme ça que tous ces déracinements ont fait de moi un écrivain.
Quel conseil donneriez-vous à la Amélie Nothomb de Stupeur et tremblement ?
Vous voulez dire de celle qui a vécu cette expérience ? Oh, de ne pas trop s'en faire. Et je suppose que dans 20 ans, si je pouvais me conseiller aujourd'hui, je me dirais la même chose. Je suis une nature extrêmement stressée, extrêmement angoissée. Je m'angoisse toujours pour tout. Je suis sûre que sur mon lit de mort, je me dirais quelque chose comme « Bah tu vois Amélie, il fallait pas tellement t'angoisser. »
Et finalement, quel conseil avez-vous à donner aux élèves du lycée français de Barcelone qui rêvent de se lancer dans l'écriture ?
Alors, d'être extrêmement patient. De ne pas chercher à battre des records absurdes tels que des records de jeune âge de publication ou tout le monde s'en fout de ça. En fait, il faut être terriblement ambitieux. Il ne faut pas le dire, bien sûr, mais il faut être terriblement ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut viser le long terme. Et si on vise le long terme, alors on est terriblement patient, on se construit. On reste de sang-froid par rapport aux innombrables conseils, tentatives d'intimidation, refus, parce que les refus, bien sûr que tout auteur en a essuyé, mais des dizaines. Donc voilà.
Beneath the screen, with human-like feet.
d'écouter Électricité, interprété par Overwork, un titre proposé par Amélie Nothon elle-même. Passons à notre deuxième sujet, Palm Moon.
Au lycée, certains élèves de terminale ont eu l'opportunité de participer à la 5e édition du Palm Moon.
Les Moon, ou modélisation des Nations Unies, sont une opportunité pour les élèves d'entrouvrir une porte vers le monde de la démocratie.
Lors de cette conférence, les élèves ont débattu sur plusieurs thématiques.
Notre journaliste, Elie Vasseur, a pu participer et réaliser quelques interviews des participants.
Écoutons-les.
Bonjour, vous êtes Abel Isambert, président de la commission 6.
Qui porte sur
les violations des valeurs de l'UE par la Hongrie et le financement des partis politiques européens.
À quoi ça sert un président de commission?
Ça sert à animer le débat et à faire un peu le rôle d'un modérateur.
Et après ces deux jours de débat, quel est votre ressenti?
C'était épuisant, mais franchement très intéressant. Ils sont tous venus très préparés, les députés, et ils ont tous joué le rôle, surtout l'extrême droite. C'était impressionnant de voir se défendre devant tout le monde. Mais ouais, ils étaient tous très intéressés par le thème et ça se voyait. Et du coup, ça a vraiment mené à un texte super intéressant.
Qu'est-ce que représente pour toi l'Europarlement de Palma?
Pour moi, l'Europarlement de Palma, ça a été l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur les institutions européennes, sur les différents points de vue de chaque groupe politique, etc. Ou même simplement sur l'exercice de la prise de parole en public, le débat, etc. Ça a été une expérience incroyable parce qu'on a pu faire des rencontres avec des personnes qui viennent de plein de pays différents d'Europe et du coup, c'était incroyable.
Qu'est-ce que tu as préféré à l'Europarlement de Palma?
Moi, j'étais présidente, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé présider la 5e commission, donner la parole, interroger, etc. Même s'il y avait quelques soucis administratifs et tout, c'était un peu long, mais juste l'ambiance d'être avec tout le monde et de diriger un peu les débats, ça m'a beaucoup plu. Après, je pense que ce que j'ai quand même préféré, c'était l'échange et la rencontre avec toutes les personnes qu'on a rencontrées.
Qu'est-ce que représente pour toi l'Europarlement de Palma?
L'Europarlement, déjà, je trouve que c'est une belle occasion de pouvoir faire des rencontres, des personnes qui peuvent peut-être nous ouvrir des nouveaux horizons, que ce soit politiques ou même voire sociaux. Mais aussi, je pense que c'est un beau projet pour permettre en fait de nous mettre déjà dans le bain de la politique, de peut-être nous préparer au monde de demain, peut-être aussi aux problématiques qui vont tous nous concerner un jour ou l'autre.
Qu'est-ce que tu as préféré à l'Europarlement?
Déjà, l'ambiance, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, le fait qu'on puisse s'entendre directement super bien avec tout le monde. Et avant tout, l'ambiance déjà du Parlement, un peu le cadre officiel qui rend ça un peu plus sympa.
C'était Toto et leur tube Africa.
Il y a quelques semaines, les premières HLP ont participé à un concours d'éloquence.
Nous avons aussi reçu la visite d'élèves du lycée français de Copenhague qui ont présenté leur discours.
Certains élèves ont expliqué leurs expériences.
Retrouvons-les tout de suite.
Ainoa, on a vu que t'étais passée sur scène, t'as fait un discours sur quoi?
Sur l'université payante.
En tout cas, c'était très passionnant. Quel était ton ressenti sur le discours? Est-ce que tu t'es sentie observée, écoutée, etc.? Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti pendant que tu le faisais?
J'étais un peu stressée au début. Et ben les gens semblaient intéressés en général pour tous les discours.
Merci beaucoup Ainoa. Bonjour Laure, on a vu que tu avais fait un discours. Sur quoi tu avais fait ton discours ?
Sur la corruption et les inégalités hommes-femmes dans le sport.
Tu étais très éloquente. Qu'as-tu pensé des gens qui t'observaient, du public, etc. Et comment t'es-tu sentie pendant que tu faisais ton discours ?
Le public était très bienveillant. Personne n'était là pour juger, mais tout le monde était là pour écouter. Pendant mon discours, c'était un peu une montagne russe d'émotions, mais c'était très sympa. Il y avait beaucoup d'adrénaline.
Quel discours vous a le plus marqué parmi tous ceux qui sont passés ?
Moi, celui de Galaxy. Déjà, le fait que ce soit les violences faites aux hommes et pas aux femmes, bah, c'est assez original. Ça rafraîchit un peu parce que les violences faites aux femmes, après, je ne sais pas du tout de dénigrer ni rien, mais c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et on entend beaucoup moins parler des violences faites aux hommes. Et ensuite, la façon avec laquelle elle s'exprime est particulièrement éloquente. Enfin, c'est impactant, quoi.
Mathilde, est-ce que, à ton passage, t'as été stressée quand t'es passée ?
J'étais stressée, mais j'ai pu m'en servir pour donner une meilleure dynamique à mon discours.
Est-ce que le stress, il est redescendu après ton passage ?
Ouais, tout va bien maintenant, je me sens super bien.
Et pendant le discours, est-ce que ça allait mieux ou c'était qu'au début que t'étais stressée ?
Une fois que tu commences, franchement, ça va, t'es dans le truc. Donc ça va.
On est avec
Ulysse.
Est-ce que tu as certaines appréciations après avoir vu les différentes prestations précédentes ?
Il y a du niveau, il y en a vraiment qui ont des très bons discours et il y en a qui m'ont quand même choqué. Après, ceux de ma classe, je les connaissais déjà, mais ça reste très fort. Et pour moi, bah, un peu stressé, un peu beaucoup, mais ça devrait bien se passer.
Tu trouves que les élèves du lycée français ont un certain niveau ou non ?
Ah oui, ils ont un certain niveau. Que ce soit de Barcelone ou Copenhague, hein, les deux. Là. C'est des beaux discours.
Angelina, comment vas-tu ?
Très bien, stressée, mais c'est fini, donc ça va.
Es-tu fière de ta prestation ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que j'ai un peu bégayé, donc ça je suis un peu déçue, mais sinon je suis assez contente parce que j'ai réussi à mettre le ton que je voulais, l'émotion que je voulais faire transmettre au public, et voilà.
Que penses-tu de la prestation des élèves du lycée français de Copenhague ?
Incroyable ! Oh, c'était incroyable ! Ils connaissaient tous leurs textes, il y en avait qui étaient excellents, d'autres un peu moins bons, mais dans l'ensemble ils étaient tous hyper bien préparés.
Il y avait du niveau, il y avait des gens qui avaient des trucs spéciaux. C'était différent, tout le monde était différent et c'était bien en vrai, il y avait de la concurrence.
Penses-tu que le niveau académique des lycées français était bien représenté durant cet événement ?
Ouais, très bien représenté. Nous, on vient de Danemark, là, on vient de loin. On a essayé de représenter le max. Les Espagnols aussi sont bons. C'est-à-dire, il y a du niveau.
Olivia, comment vas-tu ?
Ça va bien, ça va.
Es-tu fière de ta prestation aujourd'hui ?
Oui, même si j'ai fait quelques erreurs, mais...
Que penses-tu de la prestation des autres candidats ?
Oh, c'était vraiment fantastique. Le niveau était très très haut.
Qu'avez-vous pensé des différentes prestations d'aujourd'hui ?
Vraiment fantastique. Je pense qu'il y a eu pas mal d'élèves qui ont fait des performances extraordinaires en ne lisant pas les textes, avec des prestations vraiment presque théâtrales. C'était vraiment impressionnant. On est vraiment contents.
Pensez-vous que le niveau académique des lycées français en général dans le monde a été bien représenté ?
Tout à fait. Je suis moi-même ancienne élève de ce lycée de Barcelone et je suis prof à Copenhague. Je vois bien que le niveau il est extraordinaire. On a de beaux représentants. Et je pense qu'il faudrait continuer à faire des projets comme ça parce que je pense qu'on pourrait montrer aussi ailleurs ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'il est déjà très bon, je pense qu'il sera encore meilleur parce que je pense que la pression qu'on se met quand on va ailleurs aide aussi à que les performances soient bien plus élevées.
D'accord, merci beaucoup.
Impact est marqué, j'ai aimé beaucoup de choses. Le discours sur la guerre, le plaidoyer contre la guerre, il était vraiment touchant, ça c'est sûr. Il y avait plein de choses. Les violences conjugales, je trouvais ça super original, très théâtral, très éloquent. J'ai bien aimé aussi la fille qui a fait contre la jeune en réalité, ou le harcèlement scolaire. Le début était incroyable. J'ai eu peur pour elle, je me suis dit mais ça va être terrible quoi. Et en plus c'était sympa parce qu'on voyait que dans l'auditoire, était hyper solidaire et c'est pas moqué. Même les plus moqueurs, et ça c'était mignon. J'ai aimé le discours sur les FARC, parce que ça m'a aidé à mieux comprendre en fait. Parce que pour moi les FARC, ouais, c'était des rebelles, des révolutionnaires, limite, je sais pas moi, chevaleresque presque. Et en fait j'ai compris mieux. J'ai passé un bon moment. Mais en tout cas merci, c'était vraiment une très belle organisation et un beau concours.
Thank you.
venons d'écouter Little Dark Age par MJMT.
Samedi dernier, le lycée a organisé le forum des formations.
Il y avait de nombreux intervenants présents pour expliquer le fonctionnement des études supérieures.
D'autres venaient présenter leur école.
Mais nous avons aussi eu la chance de parler avec Jérôme Théillard, chargé de mission pour Parcoursup.
Il est venu exposer le fonctionnement de la plateforme. Mathilde a réussi à le rencontrer. Il a bien voulu répondre à quelques questions.
Nous remercions Monsieur Bastianelli pour nous avoir organisé cet entretien.
Voici au micro de The Journal, Monsieur Théillard.
Je suis Jérôme Théillard, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et je suis le chef du projet Parcoursup.
Pouvez-vous nous raconter la genèse de Parcoursup ?
Parcoursup est né en 2018 avec un objectif, c'était améliorer l'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur et leur permettre de réussir. Parcoursup, c'est une plateforme qui permet de voir l'ensemble de notre formation. L'objectif, c'est simplifier finalement le travail des lycéens. Parce que Parcoursup, c'est une seule plateforme, c'est un seul calendrier, c'est un seul dossier. De ce point de vue-là, ça représente un vrai progrès. Parcoursup, c'est aussi une plateforme, et donc elle est là pour recueillir des candidatures, les transmettre aux formations et leur permettre d'examiner des candidatures et apporter des réponses aux lycéens. Ça n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers, Parcoursup n'est que le relais, une transmission. Et du coup, Parcoursup est intéressant parce que je crois que ça a remis la question de l'orientation au cœur de la problématique. Comment on accompagne les lycéens dans leur projet d'orientation, comment eux se projettent vers des études, vers un métier. Et cette question qui a trop souvent été un peu oubliée, eh bien, elle redevient finalement au centre de nos préoccupations parce que derrière, c'est la situation de chacun, comment il se projette vers l'enseignement supérieur. Et moi, je le dis, et parce que je porte ce discours tout le temps, Parcoursup, c'est d'abord et avant tout de l'humain. C'est pas parce que c'est une plateforme numérique que ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui, derrière, portent cette ambition-là et avec l'objectif d'accompagner les élèves. C'est le cas, ce que font les proviseurs, les professeurs dans les lycées. Et moi, je salue ce travail qui est absolument essentiel. Et puis, c'est le cas aussi de toutes les équipes Parcoursup. On n'est jamais seul quand on va sur Parcoursup. Alors, je me souviens, des fois, j'ai pas toujours bonne réputation. Mais l'objectif, c'est, chemin faisant, de démontrer qu'on est là d'abord pour accompagner des lycéens.
Comment pensez-vous que les dossiers des Français à l'étranger sont perçus par les formations supérieures ?
Je pense qu'ils sont perçus de la même manière que les candidatures des lycéens qui sont en France. Et les chiffres le montrent. On a des résultats qui sont identiques entre les lycéens des lycées français de l'étranger et les lycéens des lycées français. Donc je veux rassurer de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que Parcoursup est aussi un levier qui permet aux lycéens français de l'étranger de valoriser leur parcours. Je crois que c'est une chance d'avoir l'opportunité de faire des études dans les lycées français parce que on a une double culture, voire des fois une pluriculture. On est là au lycée français de Barcelone, on a à la fois une identité catalane, une identité espagnole, une identité européenne. On peut le valoriser sur Parcoursup et je crois que ça intéresse aussi les formations du supérieur d'avoir ces jeunes qui ont un parcours spécifique et qui ont des choses aussi à apporter parce que précisément ils ont déjà un parcours de vie qui les a amenés à côtoyer la diversité, à s'adapter en permanence. Et je crois que c'est une plus-value dans le dossier pour accéder à des écoles, à des universités.
Et finalement, quels sont vos conseils pour les candidats pour se mettre au mieux en valeur sur Parcoursup ?
Je crois que mon premier conseil, au-delà de se mettre en valeur, c'est d'abord de choisir les formations qui vous intéressent. Franchement, c'est le premier conseil. Il n'y a pas d'obligation de faire des vœux comme ci ou de faire des vœux comme ça. Je crois que c'est ça qu'on a souhaité mettre en avant sur Parcoursup et c'est ça que reflète aussi la nouvelle organisation du lycée, c'est à la carte. Chacun choisit. Alors ça peut être des fois un peu angoissant parce que face à beaucoup de formations et face à la liberté, mais il y a des fois on est un peu stressé. Mais en même temps, cette liberté-là, c'est bien mieux que des systèmes dans lesquels ils sont très déterminés à l'avant, dans lesquels il y avait des voies de formation et on disait « si t'as pas fait ça, tu ne peux pas aller là ». Ce qu'on plaide vraiment, c'est cette liberté de choix. Chaque lycéen a le dernier mot. Et donc, il faut être conscient de cela pour pouvoir faire des vœux à la fois en conscience, en construisant son projet. On a le droit de se tromper, là aussi. Il faut être très serein par rapport à ça. Moi, je ne savais absolument pas ce que je ferais dans la vie qu'au moment où j'ai fait mes études. Ce n'est qu'une première marche. Elle est importante, mais des marches, vous en franchirez beaucoup d'autres dans toute votre carrière. Donc voilà, préparez-vous et puis mettez en avant ce que vous faites. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de lycéen qui n'ait pas des choses à faire valoir. On peut, j'allais dire, maîtriser une langue étrangère dans son cercle familial et qu'on n'apprend pas à l'école. On peut faire du sport, on peut faire une activité associative. Tout cela, ça dit des choses de vous. Ça dit de votre capacité à maîtriser plusieurs environnements, plusieurs agendas, à vous organiser, à avoir être autonome. Parce que finalement, ce qui compte, c'est de montrer, et je crois que c'est important, il y a beaucoup, souvent, parfois, une marge d'escalier entre le lycée et l'enseignement supérieur. On passe d'un monde dans lequel on était très encadré à un monde où on doit devenir autonome. Tout ce qui vous permet de vous préparer et de montrer que vous avez capitalisé au lycée sur des méthodes de travail, vous avez capitalisé sur une capacité de travail, vous avez capitalisé sur une autonomie dans votre parcours d'études, tout cela est utile pour votre parcours dans l'enseignement supérieur. Et je dirais presque, c'est bien que ce soit utile pour Parcoursup, mais c'est presque secondaire. Ce qui compte, c'est que ça sera utile pour vos études et pour réussir dans vos études. Finalement, mon rêve à moi, c'est qu'on parle moins de la plateforme et qu'on parle de la réalité du projet d'orientation et des études, parce que c'est ça qui compte.
La voiture que tu viens d'acheter. Tu vois ce genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. Des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Enfant, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Enfant, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Les rapports cœur, ils donnent les mêmes conseils que mes parents.
Vous venez d'entendre La Terre est ronde, interprétée par Aurel San.
Et c'est la fin de notre émission.
Oh non !
Et si, on se retrouve dans un mois pour de nouvelles infos et interviews.
D'ici là, abonnez-vous, écoutez-nous et laissez des commentaires sur notre site
www.radiolfb.net.
Nous vous laissons avec le dernier single de Gorillaz, Silent Running.
Ciao tout le monde !
Peace !
Radio vous fait bouger tous les jours dans la cour du lycée. Il faut l'écouter pour l'adopter.
Bonnes vacances à tous. Ciao, ciao, bye bye.